Ils étaient en Sea Live avec nous il y a un peu plus d'un an. À présent, le groupe de Frost Rock Instrumental Wurm n'a pas fini de faire parler de lui sur les ondes de Sea Lab. J'ai d'ailleurs le plaisir d'accueillir en studio les membres de ce quatuor originaire de Rennes, à savoir Pierre Lelumouel, Vivien Demer, qu'on retrouve à la guitare, et Titouan Kemener à la batterie. Bonjour à vous.
Bonjour. Bonjour.
Salut.
Wurm, c'est le nom donné à la dernière époque glaciaire, et en effet, on retrouve dans votre musique une atmosphère très froide, où tout est ralenti, comme gelé, glacé. On retrouve une sensation de grands espaces aussi, rendu notamment grâce à la réverb. Qu'est-ce qui vous inspire dans cet univers du froid, de la glaciation, des grands espaces ?
Du coup, on cherchait un petit peu, au début quand on commençait un petit peu à jouer notre musique sans avoir forcément de thématique à laquelle lui accoler, on avait un petit peu cette sensation souvent de proposer une musique qui tenait à la fois de la froideur et de la chaleur qui semblait un petit peu se répondre entre justement les côtés un petit peu rock et chaleureux des amplis à lampe et puis les grandes réverbérations. Et donc du coup la thématique elle s'est creusée au fur et à mesure et on est parti donc du coup sur le Wurm, donc qui est justement cette glaciation qui a fait mis fin au mammouth il y a environ 20 000 ans et on aimait bien cette idée de froideur qui en même temps reprend un petit peu à une certaine assonance avec l'anglais warm aussi qui est la chaleur, et on aimait bien cette ambivalence et vu qu'on travaille un petit peu des morceaux qui symbolisent un certain effondrement, une certaine fin de cycle, c'était quelque chose qui en tout cas s'est assez imposé au fur et à mesure de la réflexion, quoi, en même temps que la création musicale.
Dans votre dernier EP, Isaour, les morceaux sont aussi très longs, bien loin des 3 minutes recommandées généralement pour passer à la radio. On est ici sur des longues plages atmosphériques qui évoluent très lentement. C'est important pour vous de laisser l'atmosphère comme ça s'installer ?
Ouais, ça fait vraiment partie de l'approche qu'on a avec cette musique et comment on l'écrit. Le but, c'était de proposer une grande pièce. En fait, cet album-là, Isaour, il est construit avec quatre parties, mais un peu comme des mouvements d'une pièce classique. C'est un grand morceau qui est un ensemble. En concert, on les propose de la même manière. On n'a pas d'interruption, on parle très très peu aussi, parce qu'on est mauvais avec ça, mais on essaie de proposer cette musique-là et d'emmener les gens vraiment dans cette atmosphère-là et dans cette longueur, d'essayer de les envoyer. Et comme ça, quand on ressort du voyage, il y a vraiment un truc qui s'est passé aussi avec le public et musicalement. C'est le fait de traiter ces grands espaces, ces réverbérations et ces travails de timbre, et comment est-ce qu'on aborde des instruments qui sont finalement hyper utilisés dans les musiques rock et comment est-ce qu'on va les retraiter. Ça demande justement de se délayer dans le temps pour pouvoir émerger et vraiment prendre une identité.
Wurm, c'est une musique exclusivement instrumentale, il n'y a pas de paroles. Qu'est-ce que ça permet de ne pas avoir de ligne vocale ? Est-ce que ça permet de mieux rentrer dans une sorte de transe en écoutant la musique ?
Ouais, peut-être. Si ça permet, le fait de ne pas avoir de paroles, je pense, de laisser à chacun le droit de s'imaginer et d'entendre ce qu'il veut. Même si on a des pistes, nous, dans ce qu'on développe, ça permet aussi à chacun des auditeurs qui va écouter ça de se créer sa propre histoire, son propre développement avec cette musique, sans suggérer une vision, un imaginaire particulier à ce qu'on propose.
Cet imaginaire un petit peu préhistorique qu'on développe sur l'objet physique de l'album, mais après en concert on a eu des retours complètement divers sur des images mentales un petit peu émergentes du public qui peuvent être complètement autres.
Ça permet de laisser aussi énormément de place justement au traitement des instruments et beaucoup plus de place à la couleur du son. En fait, dans les musiques vocales, l'approche n'est souvent pas la même. Le texte est beaucoup plus central et on a une concentration qui est beaucoup plus basée sur la voix que sur l'instrumentarium qui va être plus accompagnant. Là, on est vraiment dans une recherche d'hybridation des timbres, comment les instruments se croisent entre eux et comment est-ce qu'ils forment un peu une seule voix par moment, ou à l'inverse, comment est-ce qu'ils peuvent se séparer. Le travail est différent, on sculpte vraiment une matière sonore plutôt que de sculpter une histoire, même si, inévitablement, il peut y avoir justement une forme narrative qui se crée dans l'approche de l'auditeur, mais ça laisse peut-être plus de place à ça.
En écoutant votre musique, je trouve un côté très rock progressif avec même un aspect Pink Floydien, je trouve, dans les parties atmosphériques et dans le jeu de guitare notamment.
On se refait pas.
Puis il y a un aspect aussi, je trouve, très black metal, notamment avec le fait que la batterie soit triguée. Est-ce que ça fait partie de vos influences, ces deux aspects ? Est-ce que c'est une espèce de croisement, Wurm, de ces influences-là ?
Pink Floyd, Pierre-Lou, tu peux en parler.
Ouais, c'est évident. En effet, tout le côté rock prog et Pink Floyd, c'est un truc qui est... Ouais, qui est assez inévitable aussi parce que les musiciens qu'on est, chacun on a été bercé par ces musiques-là et que c'est très constitutif de comment est-ce qu'on a découvert la musique et ces instruments-là. Après, le côté black metal aussi, c'est, je pense qu'il y a un côté très atmosphérique en fait, dans beaucoup de musique black metal aujourd'hui. Je pense qu'à proprement parler, on n'y a jamais vraiment réfléchi à cette influence black metal, mais c'est des musiques qu'on a écoutées aussi et qui souvent aussi évoquent justement des espaces balayés par les vents, quelque chose de très glacial, aussi parce que justement c'est une musique d'origine nordique. Et ouais, je pense qu'inévitablement il y a une influence et tout le travail en trémolo, parfois des nappes très fortes et très rapides, opposées à quelque chose qui semble plus de la stase et quelque chose de très lent. Je pense que ces contrastes-là, ouais, c'est une influence certaine, peut-être plus inconsciente que celle des Pink Floyd, où là, c'est digéré, c'est sûr.
Si toi, Kemener, tu viens de rejoindre donc, le groupe Wurm, qu'est-ce qui t'a donné envie de les rejoindre dans leur son? Il y avait quelque chose qui te parlait vraiment?
Ouais, bien sûr, bah, moi, c'est vraiment une musique qui me parlait beaucoup, donc quand les gars m'ont proposé de les rejoindre, j'ai pas hésité longtemps, ça me plaisait vraiment, et donc... Voilà, après pas mal de répètes, parce que c'est pas forcément une musique qui est super facile à aborder comme ça non plus, c'est quand même assez complexe à jouer. Après voilà, j'ai fait le premier concert pour la sortie du premier album justement, donc il y avait pas mal de défis.
C'est ça, il a rejoint un moment mais un peu clé pour nous.
En plus, ouais. Donc ouais, non, c'était... Enfin, j'ai pas hésité et c'était vraiment super, je suis toujours très content.
Vous avez commencé à travailler en août dernier sur un projet avec la pianiste et compositrice Caroline Faget pour jouer dans une église avec un orgue. Qu'est-ce que vous a donné envie d'investir ce type de lieu qui est particulier, qu'est l'église? Est-ce que c'était l'acoustique particulière qui vous intéressait?
Oui, il y avait de ça. Et puis il y avait vraiment la volonté de créer une sorte de créer un projet commun du coup avec Hugo Rimbaud, qui est un ingénieur du son qu'on connaît très bien, et le réalisateur Julien Posnick. Et on voulait créer un petit peu un projet qui regrouperait justement autant une sorte de qui investirait les lieux un petit peu sous plusieurs angles, à la fois sous l'angle technique avec Hugo qui voulait faire une vraie sonorisation quadriphonique où on mettrait le public en fait au centre des reprises en haut-parleur, donc avec une diffusion à 360 degrés, utiliser également l'orgue qui est repris justement qui est repris et diffusé dans sur cette quadriphonie, et du coup avoir le regard aussi de Julien Posnick qui a notamment créé deux clips qui sont en ligne sur notre chaîne YouTube, donc un premier qui a un long plan séquence sur notre morceau Mangonte, et un second qui est une captation lors du live et qui est monté sur notre morceau Valdai.
L'idée, ouais, c'est, je rebondis sur ce que tu disais, Vivien, d'investir ces lieux-là avec ces quadriphonies et tout ça. C'était vraiment d'essayer de jouer avec l'acoustique des lieux qui sont si particuliers, en fait, dans les églises. Il y a une réverbération naturelle qui est énorme et qui est hyper intéressante à traiter. Et c'est déjà quelque chose qui est très inhérent à notre travail avec les sons qu'on utilise et les effets. Là, de pouvoir les coupler et de travailler justement avec cette manière sonore qui est beaucoup plus organique et beaucoup plus naturelle, qui n'est pas un effet numérique, c'était assez passionnant. Et de pouvoir réinvestir des lieux de patrimoine et de réinvestir un instrument comme l'orgue qui est beaucoup plus utilisé dans des musiques anciennes ou des musiques liturgiques, de le réinvestir avec notre instrumentarium plutôt moderne, avec ce côté post-rock, etc. C'était assez passionnant de voir comment est-ce qu'on pouvait justement aussi croiser à nouveau ces instruments et à la fois utiliser la diffusion de cet orgue justement en direct, comment est-ce qu'il investit l'église naturellement et comment est-ce qu'on va le reprendre et le rendre numérique aussi et transformer cet instrument. C'était tout le jeu. Donc en effet, le travail de Hugo Rimbaud, c'était clé pour ce travail-là. Ouais.
Dans ce travail-là, et puis même dans votre EP, on retrouve notamment un intérêt particulier par rapport à la spatialisation du son aussi, avec les échos, avec la réverbération. Qu'est-ce que ça apporte de penser son son de façon spatiale pour un groupe ?
Il y a de toute façon une dominante de la spatialisation dans le musique post-rock, de toute façon ne serait-ce qu'à travers le delay qui peut se travailler, donc c'est un effet qui permet de faire comme si le son rebondissait un petit peu sur une surface, et donc du coup on joue un petit peu sur les distances de délai. C'est vrai qu'on peut donner cette impression d'espace, ne serait-ce qu'avec avec les effets, et on peut un petit peu simuler, évoquer des espaces qui se restreignent ou au contraire s'élargissent jusqu'à l'infini. Et je pense que ça fait partie en tout cas de vraiment de cette création esthétique qui est le post-rock, c'est de pouvoir de pouvoir sculpter le temps dans la musique, mais également l'espace qui peut sembler en tout cas un petit peu évoluer, ou en tout cas c'est une image qu'on peut rattacher en écoutant ces musiques avec ces effets-là. Quoi.
C'est d'autant plus juste dans le cas de l'église, justement, avec le fait d'entourer le public avec les instruments. C'est des occasions qui sont assez rares en concert. Généralement, on a plutôt une façade avec les instruments sur scène et une diffusion qui est devant, et le public va recevoir le son droit devant. Là, c'était intéressant d'essayer de créer un espèce de liquide amniotique sonore, en fait, dans lequel plonger le public avec quatre sources qui arrivent de tous les côtés et avoir vraiment quelque chose qui nous baigne, de pouvoir recevoir tout ça et de recevoir les échos justement des murs, voilà, des surfaces qui rebondissent là.
On avait vraiment l'hybridation entre nos effets sur nos guitares ou nos basses, etc.
Et l'architecture.
Et l'architecture qui avait sa réverbération et ses échos naturels, qui les deux rentraient un petit peu en résonance. Et ça faisait une création qui était vraiment très intéressante en tout cas.
C'est des occasions rares en tout cas, voilà, de traiter l'espace, c'est des lieux qui s'y prêtent, c'est sûr.
Et on peut observer ça d'ailleurs dans les deux clips qui sont sortis. Il y en a un autre en préparation, c'est ça ?
Ouais, du coup, le troisième, ça va être un petit peu différent des deux premiers. Donc, comme l'a dit Vien, il y a eu ce plan séquence et puis ce concert un peu capté et un peu monté. La pièce concert, donc Valdaï sous la glace, qui est sortie, en fait, c'est une pièce qui est en deux parties, normalement sur nos albums. Et donc, il y a Valdaï sur la glace. Et c'est une pièce très, très ambiante. C'est plutôt une plage vraiment de texture. Les choses sont vraiment très lentes et c'est des petits événements sonores qui se croisent. Et donc là, c'était quelque chose qui nous semblait hyper important pour celui-là. C'était vraiment justement ce truc clé de traiter le son, vu que là, on abandonne tout élément rythmique ou mélodique auquel s'accrocher. C'est vraiment un son, et comment est-ce que sa matière va évoluer dans le temps. Donc là, le travail que va proposer Julien, du coup, qui est le réalisateur et qui est venu faire les images et proposer vraiment un regard là-dessus, va être encore différent. Il a travaillé entre autres avec une caméra Super 8, donc quelque chose de beaucoup plus analogique aussi. Et il a aussi retraité ce médium. La réflexion qu'on a nous dans notre son était la même pour lui. Donc il a dû travailler sur de la pellicule, sur de la pellicule peinte, grattée. Il a été filmé aussi beaucoup de choses autour de cette église. On a fait des captations de drones aussi avec Nathalie, la maman de Vivien, qui, dont c'est le métier, qui pilote de drones. On a beaucoup d'images qui sont sorties de ça. Il y a des images de minéraux aussi dans la montagne, dans les monts d'Arrée autour de Châteaulin, donc là où on a tourné avec la première église, qui ont été faites. Donc ça va être une pièce plus expérimentale visuellement aussi, et qui va traiter tout ça, ces évocations préhistoriques, les évocations de cette architecture un peu monumentale qui est chargée d'histoire et voilà, qui amène un peu à cette introspection visuelle et sonore. On a hâte de voir aussi ce résultat-là, et c'est en travail.
C'est prévu pour quand ?
Ce sera certainement au printemps, du coup, plus tôt. C'est quelque chose qui demande plus de temps à travailler. Et d'autant aussi, pour les agendas de chacun, dans les projets dans lesquels on est, pouvoir se retrouver pour collaborer ensemble et créer, ça demande du temps. Donc c'est un projet qui se dilate un petit peu, mais voilà, certainement au printemps, normalement, une sortie.
Et est-ce que vous avez prévu de réitérer l'expérience dans d'autres églises, dans d'autres lieux historiques comme ça ?
On aimerait en tout cas le refaire. Oui, c'est un projet. On est en train un petit peu de prospecter. On va essayer de... Voilà. De reproposer ce projet, en tout cas, de le vendre à d'autres lieux, d'autres communes qui auraient des équipements du même type, en tout cas.
Si on peut aller plus loin dans cette expérience et justement continuer à faire vivre des lieux de patrimoine qui sont souvent désinvestis. Et là, il y a une grande vague de restauration d'orgues, en fait, qui est en train de se faire particulièrement dans le Grand Ouest. On voit qu'il y a énormément de lieux, énormément de communautés de communes et même la région qui investit énormément dans la restauration de ces instruments. Donc on trouve ça très intéressant de pouvoir leur redonner une vie, puisque il y a assez peu de projets qui se font déjà dans ces lieux-là. Et puis c'est des occasions rares, en effet, acoustiquement. Donc ouais, c'est un projet qu'on a vraiment envie de faire vivre, qui va rester un à côté de ce qu'est principalement Vurm, qui reste ce quatuor vraiment deux guitares, une basse, une batterie, et purement post-rock. Mais c'est un à côté de ce qu'on veut continuer à faire avec Caroline, et du coup avec Hugo Rimbaud et Julien, continuer à proposer cette musique-là sous une autre forme.
Votre dernier EP est donc sorti le 15 mars 2019. Est-ce que vous avez d'autres EP, d'autres albums qui sont en projet?
Là on est en train de travailler sur un deuxième album qui reprendra évidemment toutes les influences et tout le côté post-rock qu'on avait développé, enfin, qu'ils avaient développé puisque j'étais pas...
Ouais, t'as largement encore
arrivé, mais bien sûr. Et du coup, avec aussi quelques petites touches plus mad rock et tout ça, aller chercher un peu d'autres choses en essayant de garder quand même l'essence de la musique qu'on fait et qu'on aime faire.
C'est ça, faire suivre
un petit peu plus biscornu, un petit peu plus ouais. Avec des métriques un petit peu plus étranges et peut-être aussi un petit peu plus d'éclaircie dans le froid aussi, les tonalités peut-être de temps en temps un peu plus majeures. Plus fiévreuses, on verra bien.
Continuer d'explorer une espèce d'imagerie préhistorique toujours, mais peut-être plus chaleureuse, aller plus vers l'Orient et toujours sur les émergences des civilisations, mais ouais, quelque chose de plus ocre que de bleuté.
On vous retrouvera d'ailleurs en concert samedi 29 février à Saint-Péran, dans la forêt de Brocéliande. Vous avez prévu du coup de jouer ces morceaux-là aussi, ces nouveaux morceaux durant
si
ce concert?
Si on a le temps, c'est pas encore tout à fait fixé, mais c'est possible.
C'est ça, on a commencé à crash test un petit peu là, ce nouvel album très récemment, du coup, dans un autre concert qu'on a fait à Rennes, à la Fée Verte. Et ça fait partie du travail, si on veut aller vers justement une sortie d'un nouvel album, on a besoin aussi d'éprouver ces morceaux-là avec le public et d'avoir des retours. Nous, on a besoin de recul sur cette musique aussi avant de pouvoir l'enregistrer. C'est encore très mobile, là, entre chaque répétition, entre chaque concert qu'on fait, les morceaux mutent et continuent d'évoluer. Donc c'est possible qu'on continue les crash tests un petit peu là encore à Saint-Péran peut-être. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on jouera le premier album, Isasour, qui lui aussi continue de muter à sa manière.
Merci, Vaughan.
Merci beaucoup.
Merci à toi.
Si vous aimez le frost rock atmosphérique qui vous fasse voyager dans d'immenses plaines glacées, faites le détour donc à la rencontre de leur EP Isasour et n'hésitez pas à aller découvrir le Sea Live sur la page de Sea Lab qui a été fait l'année dernière et qu'on trouve aussi sur le bandcamp du groupe. Vous pourrez également retrouver Vaughan en concert le samedi 29 février à Saint-Péran dans la forêt de Brocéliande avec le groupe de rock progressif Brestois Strategy. Et en attendant, nous, on va se faire plaisir en écoutant l'arrangement du titre Valdai, issu du premier album de Wurm, Isasour, Valdai sous la glace, qui est la deuxième partie d'une pièce concert avec Caroline Faget à l'orgue, enregistrée dans l'église Saint-Idunet de Châteaulin. On écoute donc tout de suite Valdai sous la glace de Wurm sur Sea Lab.